Cette première séquence, Monsieur Lefebvre, je vais vous donner la parole. Nous avons abordé, je crois, un temps d'échange, d'éclairage sur des enjeux majeurs, la réflexion sur les nouvelles formes de mobilité. Et je crois que les conseils départementaux vont prendre toute leur place dans ces réflexions qui concernent au premier lieu nos concitoyens. Je salue l'arrivée de collégiens, alors il y en a de Romillé, de Rennes, de Vitré ou de Fougères, qui vont assister à nos travaux et qui, cet après-midi également, apporteront des témoignages sur leur contribution à leur vision de l'Ille-et-Vilaine en 2035. Donc merci de votre présence. Et André, je te donne sans plus tarder la parole.
Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à saluer l'importance, la pertinence et la qualité du travail qui a été réalisé par les agents qui relèvent de la direction des infrastructures. Ils ont fait un travail considérable. Ils ont l'habitude d'ouvrir des chantiers, mais là, c'est un chantier d'une toute autre nature puisqu'il s'agit d'un chantier portant sur les mobilités de nos infrastructures demain. C'est près de 600 dossiers que nous avons comptabilisés et qui ont fait l'objet d'une expertise par les différents services. Alors, la mobilité, c'est un mode aujourd'hui. Ça noircit beaucoup de papier dans les médias. Ça fait, je dirais, agiter les ménages de tous les élus, au plan national, au plan régional, dans les métropoles, dans les départements. Et puis, j'ajouterais également que ça crève les écrans par l'actualité nationale, puisque effectivement il y a la loi LOM qui aujourd'hui est en débat au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pour nous éclairer dans cette démarche prospective, on a demandé à deux experts sur les problématiques de mobilité de pouvoir nous éclairer. Tout d'abord, Marie Hugues, qui est chercheure donc au laboratoire CTRS, de l'UNI de Tours, CTRS, qui malheureusement s'est décommandée pour des raisons de santé. Elle est spécialiste des problématiques de mobilité dans le milieu rural, dans le milieu périurbain. Et puis Stéphane Schultz, qui aujourd'hui est là, qui est fondateur du cabinet conseil 15 marches, dont le siège est à Passé, et qui va nous faire une approche essentiellement avec les outils, les moyens et les applications numériques qui aujourd'hui font jour. Simplement, ce regard d'un expert sur les problématiques des mobilités est indispensable pour nous, à la fois pour, je dirais, décrypter bien sûr les nouveaux comportements, les nouveaux usages, explorer de nouvelles pistes, se poser les bonnes questions, et puis regarder dans la bonne route, dans la bonne direction, à un moment où nous sommes à la croisement d'un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués d'ailleurs ce matin et qui vont faire l'objet d'une présentation par Stéphane. Je te donne la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Si j'appuie, ça marchera mieux. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Bon. Donc j'ai la lourde tâche aujourd'hui de vous parler d'innovation dans les mobilités. Donc, c'est une conférence qui va durer à peu près 30 minutes. Je ne vais peut-être pas dire forcément des choses qui vous conviennent, mais il nous restera un petit peu de temps, comme je fais le rôle de deux interventions. Il nous restera un petit peu de temps pour échanger si c'est prévu au protocole. J'ai pas de micro, comme ça on va y arriver. Donc je suis consultant à Rennes. Comme je le dis souvent avec humour, j'aimerais bien monter une filiale à Rennes. C'est-à-dire je travaille peu finalement dans la région et je travaille beaucoup à l'extérieur, à Paris. Donc je suis consultant en stratégie. Je travaille beaucoup sur la mobilité. Alors je connais un petit peu les transports départementaux parce que j'ai eu la chance de diriger une structure qui s'appelait à l'époque Ille-et-Vilaine Autocar, qui est devenue l'opérateur du réseau Ille-et-Nous. Donc j'ai le souvenir d'avoir fait les 100 communes desservies en voiture une par une, donc j'ai quelques souvenirs. Et donc depuis 7 ans, j'ai changé de métier complètement et je conseille des collectivités, des grandes entreprises, des PME et des start-up. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui sont l'innovation dans les transports. Donc ce qui est important, c'est que je vais essayer de vous parler autant de technologies que d'usage et autant d'usage que de changement dans la manière de considérer les transports. Alors traditionnellement, surtout quand on s'adresse à des élus, on a tendance à considérer que on aime bien ce qui est bipolaire, donc on va dire d'un côté il y a les transports collectifs et puis de l'autre côté il y a les voitures. Et en gros, les départements ils s'occuperaient des routes hein, et puis les autres s'occuperaient des transports collectifs où chacun va essayer de trouver un équilibre entre les deux. En réalité, alors je ne vais pas vous asséner trop de graphiques comme celui-là, mais celui-ci il est assez facile à identifier, puisque tout ce qui est gris ici, c'est la part de marché de la voiture particulière. Ce que vous avez en colonne, ce sont les ranges de distance, c'est-à-dire, en gros, plus vous allez vers la droite, plus vous avez des distances qui sont éloignées, et plus vous allez vers la gauche, plus vous avez des distances qui sont courtes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même sur des distances courtes, en réalité, ça, ce sont les déplacements domicile-travail, la voiture particulière qui est en gris se taille encore la part du lion. En bleu, vous avez la marche, évidemment, la marche à pied, mais vous voyez que même sur des distances très courtes, la marche à pied reste minoritaire. Et puis en vert, vous avez le vélo et en gris, les deux roues motorisées. Donc on reviendra sur cette notion parce que souvent, quand on parle d'offres de transport, on oppose finalement des comportements de mobilité qui seraient différents ou qui seraient spécifiques. On dit souvent, chez moi, c'est pas pareil. Ah, mais ici, c'est le département, c'est pas la métropole. Donc on reviendra là-dessus. Et un deuxième point qui est important, c'est dans cette idée d'hégémonie de la voiture particulière, il faut quand même prendre bien en compte que vous avez à peu près 39 millions de voitures en France. Sur 39 millions de voitures, il y en a 9 millions qui changent de main chaque année. Et sur les 9 millions, il n'y en a que 2 millions de voitures neuves. Et si vous prenez ces 2 millions de voitures neuves, il n'y a que 1 million qui est vendu à des particuliers. L'autre million, c'est vendu à des flottes, au département, à des loueurs, etc. Donc derrière ce mythe de tout le monde change de voiture tout le temps, il faut des voitures tout le temps, en réalité, c'est 1 million sur 39 millions qui changent de main. Et comme vous le voyez sur ce graphique, c'est finalement un marché de niche, c'est-à-dire les gens qui achètent des voitures neuves aujourd'hui, alors je suis pas loin d'avoir cet âge-là, donc je vais pas critiquer, mais ils sont plutôt âgés et ils sont plutôt riches aussi, parce que finalement, quand on regarde le prix d'achat d'une voiture neuve, il est de plus de 26 000 euros, je sais pas si vous en avez acheté récemment, c'est un bien qui est en inflation de manière absolument incompréhensible, c'est-à-dire les gens achètent des véhicules de plus en plus chers, de plus en plus lourds, on y reviendra, et donc l'âge moyen, parce que la structure des revenus en France est conçue comme ça, il est de 56 ans, et après vous avez le coût de possession de la voiture, hein, donc qui prend en compte à la fois l'amortissement de son achat, mais aussi de fonctionnement, et ça c'est toutes les voitures, pas que les voitures neuves, c'est de 6 000 euros par an. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui la voiture c'est un luxe. Deuxièmement, c'est un luxe aussi parce que c'est un des actifs que vous possédez qui est le moins bien utilisé. C'est-à-dire quand vous regardez la manière dont vous utilisez les choses, et quand on va parler de bilan carbone et d'efficacité énergétique, on va beaucoup parler de la manière dont vous utilisez les choses, il est très mal utilisé. En gros, on l'utilise 10% du temps, hein, vous voyez, c'est-à-dire à peu près 2 heures par jour. Hein. Alors ça, c'est constant, on l'utilise depuis 50 ans, on se déplace, le temps de déplacement est à peu près identique. Et puis même quand vous l'utilisez, c'est-à-dire même les 2 heures par jour où vous l'utilisez, finalement, il y a 1,2 personnes en moyenne, alors ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous êtes seul dans votre voiture. Et donc là aussi, on l'utilise très mal, puisqu'une voiture, c'est une masse de 1 tonne 2, 1 tonne 5, qui est utilisée pour transporter une personne de 60-70 kilos. Hein, donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut rentrer. C'est un luxe dans le sens où c'est quelque chose qu'on paye cher et finalement qu'on utilise assez mal. Ensuite, c'est aussi un luxe parce que la voiture, ça consomme de l'espace. C'est-à-dire une voiture, c'est un système, c'est pas un objet. C'est-à-dire pour qu'une voiture fonctionne convenablement, vous êtes bien placé pour le savoir, il faut qu'il y ait des routes correctes, il faut qu'il y ait des carrefours corrects, il faut qu'il y ait des parkings corrects. Une place de stationnement, c'est 25 mètres carrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met ça bout à bout, même à l'échelle d'un département comme l'Ille-et-Vilaine, il y a une consommation de l'espace qui est très importante. C'est-à-dire on a besoin de consommer de l'espace et cet espace, il n'est pas infini, même dans l'Ille-et-Vilaine, on va forcément le prendre sur quelque chose. Donc je vous laisse découvrir ça, mais vous avez sûrement vu beaucoup d'analyses là-dessus, c'est-à-dire on a une consommation de la tâche urbaine qui est liée à la fois à l'habitat, on dit, mais c'est aussi lié au fait qu'on doit y accéder en voiture et ça prend énormément de place. Donc il y a je dis fin d'un modèle volontairement parce que on voit bien que c'est pas infini et qu'à un moment donné, tant en termes de coûts fonciers que de coûts environnementaux, que de coûts tout court, on a vu récemment les gilets jaunes, c'était un mouvement qui a peut-être surpris, mais qui n'était pas si étonnant que ça. Moi, j'intervenais sur ce sujet-là le 5 novembre devant un autre département, le département de Loire-Atlantique. On a eu des échanges assez longs avec les élus. Et à la fin, je me souvenais de leur dire, mais vous savez, vous avez une bombe à retardement. C'est-à-dire, on est tous devant une bombe à retardement. C'est-à-dire, les gens qui sont allés habiter en périphérie, on leur a menti. on leur a dit que c'était moins cher de vivre en périphérie. En réalité, c'est plus cher. Donc ça, c'est quelque chose. Moi, je fais pas de propagande. Hein. Je veux dire, je suis pas militant. Je constate ce qui se passe. Aujourd'hui, faut vous poser la question si vous pouvez durer 20 ans encore avec ce modèle-là. Alors, j'aimerais bien que ça va. Deuxième modèle, le modèle énergétique. Donc ça, c'est un graphique encore plus compliqué. J'espère que vous suivez les enfants là-haut. Donc ça, c'est quoi? C'est le mix énergétique français. Alors, en plus, il est particulier, mais le mix énergétique français, il dit quoi? Il dit qu'en gros, malgré le fait qu'on ait de l'énergie nucléaire en France, on a quand même l'essentiel, en fait, des ressources pour le transport. Il vient du pétrole. Donc c'est une ressource qui n'est pas finie, ça vous le savez, qui n'est pas infinie, pardon. Et c'est aussi une ressource qui crée une dépendance particulière. Là, vous avez vu cette semaine, les cours flambent parce qu'il se passe quelque chose dans le Golfe Persique. Demain, on ne sait pas ce qui se passera. Mais en tout cas, il n'y a aucune prévision qui dit que ces coûts vont baisser durablement. Donc on a aussi un sujet en termes de modèle énergétique, c'est-à-dire ce mode de déplacement, il coûte cher à l'achat, il consomme beaucoup d'espace. Et on voit qu'on est dépendant, en fait, de coûts extérieurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc le statu quo, c'est pas une option. Ça veut dire que tout ce qu'on nous dit, et moi ça fait plus de 20 ans qu'on me dit que la voiture elle va polluer moins, elle va coûter moins cher, en réalité on voit bien qu'il faut qu'on change de modèle, on sait pas comment, je vous spoil le truc, hein. On va pas vous dire exactement comment, on va vous dire sur quoi les gens travaillent. Donc pollution, insécurité aussi, hein. Je veux dire, il y a toujours plus de 3000 morts et 100 000 blessés graves, il y a le coût, on l'a vu, et puis il y a l'étalement urbain. Donc, quelles sont les clés sur lesquelles les gens travaillent aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui? Moi, mon métier, en fait, c'est d'observer ce qui se passe dans le monde entier, dans le domaine des mobilités. Alors, il y a évidemment le grand triptyque, en fait, qui est la voiture sera électrique, la voiture sera partagée et la voiture, elle sera autonome. Hein, vous voyez un peu dans l'ordre. Et puis, moi, je rajoute une question, finalement, c'est est-ce qu'on aura encore besoin d'une voiture? Et on va essayer de voir ça ensemble. Donc, en gros, le premier élément... Je vais trop vite, ça va? C'est bon? Donc, le premier élément, c'est quand même l'aspect numérique. C'est-à-dire en quoi le numérique, alors on va essayer de définir de quoi il s'agit, change la mobilité, c'est-à-dire la manière même dont vous consommez la mobilité, mais aussi la manière dont elle est conçue, dont elle est produite et dont elle est distribuée aux gens. Donc, ça change la mobilité. Le numérique, souvent, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire, ça, c'est une photo des années 30. Dans les années 30, on imaginait quelque part le futur de l'automobile, ce serait une meilleure automobile. Une voiture volante, un truc incroyable. Alors, vous avez toutes ces images de 1900-1930. Et puis, en réalité, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des trottinettes électriques. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui est arrivé à notre futur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez ça. Alors, je vois, vous avez même certains qui l'ont en main, là. C'est-à-dire, on a ça qui a changé. C'est-à-dire, ça, c'est une espèce de magie. C'est la plus grande innovation en matière de mobilité. Alors, ça s'appelle un mobile, c'est pas un hasard. En gros, ça permet d'accéder à énormément de choses de partout. C'est-à-dire, moi, il y a 20 ans, quand on faisait des brainstorming sur la manière dont on pourrait améliorer les transports, on imaginait un truc qui soit individuel. On imaginait un truc qui soit totalement personnalisé et puis qui soit ubiquitaire. On pouvait s'en servir tout le temps, partout et de partout. Donc, on l'a. Le mobile, vous voyez en bas, vous avez encore une courbe, c'est la courbe d'adoption du PC, donc de l'ordinateur que vous avez devant vous. Je me souviens d'ailleurs que le département avait facilité l'adoption du PC par les collégiens. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez toujours, mais vous aviez au collège, vous l'aviez toujours, c'est ça. Là, la courbe orange, c'est l'adoption du mobile dans le monde. Donc vous voyez la différence, c'est-à-dire le mobile, il ne faut pas considérer, et pendant longtemps on a considéré que le mobile c'était pour les gens qui avaient un PC, c'était un luxe. En réalité, le mobile, c'est l'ordinateur du pauvre. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de gens qui ont simplement un mobile, y compris dans les pays émergents, et qui n'ont pas accès à des ordinateurs. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Le mobile, ce n'est pas quelque chose de mieux que l'ordinateur, c'est l'ordinateur par défaut. Ensuite, le mobile, par rapport à la mobilité, encore une fois, c'est quelque chose dont on a rêvé pendant des années. C'est-à-dire vous pouvez, derrière, accéder. Le principe du mobile, c'est qu'il est connecté. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de charger à l'intérieur toutes les informations. Vous n'avez pas besoin de mettre 50 boutons. Vous voyez, il y a un bouton sur celui-là. Vous avez sans doute quelque chose de... Et ça veut dire qu'on peut accéder et que toute la puissance de calcul... elle est à l'extérieur. Donc ça, c'est absolument un levier énorme qui permet, par exemple, comme vous le voyez sur cette application, d'avoir de l'information sur tous les transports qui sont à proximité. Moi, je me souviens de projets où on essayait de mettre des informations sur les portiques. Il y avait déjà des portiques à l'époque. Hein, ça s'appelait DoorBraze. Maintenant, l'information, vous l'avez là, elle est personnalisée, elle est dans la langue que vous voulez, elle est dans la couleur que vous voulez, elle est dans la taille de caractère que vous voulez. Derrière ça, il y a aussi la géolocalisation. Ça, c'est un truc absolument énorme. Vous avez des satellites qui sont au-dessus de vous, qui vous permettent de savoir en permanence où vous êtes, où sont les autres. Et ça, je dirais, quand vous produisez du transport, c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire, avant, on attendait, on se demandait s'il allait arriver, on ne savait pas où il était. Et avant, c'était il y a 10 ans, hein, 10-15 ans. Hein. Donc, il y a ça, et puis il y a le mobile, et puis il y a le cloud. Le cloud, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des ordinateurs extrêmement puissants sans forcément avoir besoin de vous les trimballer ni dans le bus, ni dans la voiture, ni dans le téléphone. Et enfin, ça c'est nouveau, on est capable, avant on avait des choses qui étaient sur le mobile, et maintenant on est capable de lever les barrières physiques entre le mobile et un engin, au hasard là c'est un vélo, c'est-à-dire on est capable d'avoir des interfaces, là c'est un QR code, donc ça devient classique, mais il y a 5 ans c'était encore pas classique, donc on est capable finalement de numériser un engin sans forcément là aussi l'équiper d'infrastructures extrêmement lourdes. Donc ça ce sont des inventions technologiques, on va voir comment elles sont utilisées. Mais il faut prendre ça en main. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on n'avait pas de manière aussi accessible. Aujourd'hui, en gros, pour 5000 euros, vous pouvez monter une start-up dans la mobilité. 5000 euros, ça se trouve. Et vous pouvez bénéficier presque gratuitement de toutes ces technologies. Donc, le premier élément, ce qui s'est passé en premier, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle en stratégie le dégroupage des mobilités. Ça veut dire que quand avant, il fallait acheter une voiture et puis assurer soi-même un certain nombre de fonctions, maintenant, vous avez tout un tas de services qui sont disponibles. Alors, ils sont ou groupés ou dégroupés dans des entreprises. Donc, évidemment, pour partager le véhicule, on va en parler, mais aussi pour l'acheter, pour stationner. Vous avez des gens qui vous stationnent votre voiture. Vous avez évidemment les applications de guidage. Vous avez, pour les voitures électriques, de la recharge. Je connais même une entreprise qui vient faire le plein de votre voiture pendant que vous travaillez. Bon, tout ça, c'est aussi nouveau et ça a été facilité par ces technologies, finalement, de mobile qui font qu'on peut ouvrir, par exemple, une voiture à distance. Deuxième point, la mobilité électrique. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque aussi important que la mobilité numérique, mais je vais essayer de faire le pont entre les deux. Donc, première chose, je vous annonce que l'année prochaine, et ça commence à partir d'octobre puisque les modèles 2020 sortent maintenant, vous n'allez entendre parler que de voitures électriques. Pourquoi vous allez entendre parler de voitures électriques ? Option 1, parce que les constructeurs se sont convertis à l'électrique. Option 2, parce qu'ils sont obligés de vendre des voitures électriques. C'est-à-dire, depuis 2011 puis 2014, il y a une obligation européenne qui a été fixée pour 2020 qui dit, en 2020, on prendra l'ensemble des véhicules que vous avez vendus, on regardera combien ils émettent de CO2, alors les vraies mesures, hein. Et si vous dépassez 95 grammes de CO2, de mémoire, c'est 400 000 euros par gramme, quelque chose comme ça, ou 4 millions, je ne sais plus. Enfin, c'est une amende significative qui fait que là, ils ne peuvent plus jouer du tout avec ça. C'est-à-dire quand avant, ils avaient éventuellement, ils devaient respecter des normes d'émissions par véhicule, maintenant, ils doivent respecter des normes globales par flotte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vu que le poids des véhicules augmente de plus en plus, le poids des véhicules que vous achetez aujourd'hui augmente, le CO2 c'est directement lié au poids, ils sont obligés pour compenser de vendre un maximum de véhicules électriques pour, si vous voulez, faire un espèce de mix. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça veut dire qu'ils vont forcer, comme des malades, la vente de véhicules électriques, même s'ils savent que ça va faire 5 à 10% du parc des voitures neuves, ils vont forcer, donc vous allez en entendre beaucoup parler. Deuxième élément. Donc ça donne quoi ? Ça veut dire qu'au niveau mondial, on va arriver par le renouvellement naturel, on va dire, à ce qu'un véhicule sur trois en 2040 sera électrique. C'est pas terrible, hein. Ça fait jamais qu'un véhicule sur trois. Mais bon, le parc, il se renouvelle tous les 15 ans. C'est rendu possible aussi parce que le prix des batteries, hein, qui dit véhicule électrique, dit on enlève le moteur à explosion et on met des batteries à la place. On met des moteurs électriques, pardon, avec des batteries. Le prix des batteries, vous voyez ici, a été divisé de manière extraordinaire. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on est passé de 1000 à 200 et on est encore en train de diviser par deux. Ça veut dire qu'il se passe pour les batteries des voitures, ce qui est à peu près ce qui s'est passé pour les batteries de vos appareils électroniques. Le coût baisse, le potentiel augmente. Évidemment, c'est un marché mondial. Les investisseurs qui investissent dans ces technologies ont coutume de dire il y a 4 grands marchés mondiaux. Il y a les chaussures, il y a la brosse à dents, il y a le téléphone et il y a la voiture. Hein, donc, faut pas rêver. Quand vous parlez, vous, de ce qui se passe en Ille-et-Vilaine et même quand la ministre dit ce qui se passe en France, en réalité, on est bien sur des phénomènes mondiaux. En Chine, vous avez les petits points jaunes ici, vous avez les investissements qui sont faits en Chine actuellement sur les batteries qui sont et l'ensemble de la chaîne électrique, c'est absolument colossal. Et évidemment, là aussi, les constructeurs automobiles qui sont des constructeurs mondiaux, ils regardent ce marché-là. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer, en gros, si je caricaturais, ils vont faire des véhicules propres pour la Chine et nous, on va récupérer les véhicules sales. C'est quelque chose qu'on faisait avec les autocars avant, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous, nos véhicules, quand ils étaient trop vieux, on les envoyait dans d'autres pays. L'autre chiffre qui est important, c'est que vous voyez la production qui est prévue globale de batteries, donc qui va passer de 135 à 41 à 999. Donc là aussi, on va multiplier par 7 la production mondiale de batteries. Donc attendez-vous à voir des camions, des bus et des voitures. Des bus ici, alors j'ai perdu le chiffre que j'avais pris avant. Le chiffre qu'il faut garder en tête, c'est que l'électrification des bus en Chine, en une semaine, ils électrifient l'équivalent du parc de la RATP. Hein, donc parce qu'ils ont évidemment énormément de bus, mais aussi parce qu'ils font une électrification à marche forcée. Préparez vos questions sur le mix énergétique de la Chine, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est forcément super vert de A à Z, mais en tout cas, ils le font. Et là aussi, ça veut dire qu'en termes de marché, quand vous discutez avec un constructeur automobile, quand vous discutez avec un fabricant de batterie, même avec un énergéticien, ils regardent tout ce qui se passe là-bas, parce que c'est évidemment là-bas que le business est. Ensuite, bah évidemment, vous avez aussi de l'autre côté, du côté des villes qui disent, bah non, bah moi, c'est fini maintenant. Alors, il y a un concours 2025, 2030, 2040. Je ne veux plus de véhicules diesel, de véhicules thermiques ou même de véhicules du tout. Donc ici, vous avez Londres. Donc là, Londres, c'est maintenant. C'était le 19 avril et ensuite 2021. Vous allez avoir des conditions absolument drastiques qui vont être imposées aux véhicules. Alors eux, ils ont une autre manière de faire, c'est-à-dire ils taxent les autres. Hein, donc ça devient vraiment très, très élevé. Un camion pour rentrer dans Londres aujourd'hui, un camion qui ne respecte pas les normes Euro 6, je crois qu'il paye l'équivalent de 150 euros juste pour rentrer dans le périmètre. Donc c'est tout à fait dissuasif et évidemment, ça a un effet très important sur les flottes de véhicules et l'usage des autres modes. Si ce n'est pas les États qui le font, souvenez-vous de la cigarette, c'est les particuliers qui attaquent en justice. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on a arrêté la cigarette? On n'a pas arrêté la cigarette dans les lieux publics parce que vous l'avez décidé. On a arrêté les cigarettes parce qu'il y a des gens qui ont commencé à gagner des procès contre leur employeur. Et donc la CRAM, elle a dit, pour ceux qui sont employeurs, hein, la CRAM, elle a dit, vous allez voir, je vais vous monter un peu le taux là parce que vous êtes des professions à risque et c'est des maladies professionnelles. Il va se passer la même chose pour la voiture. La voiture et la cigarette, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Berlin, en Allemagne, c'est un pays en Europe qu'on connaît bien, il y a des gens qui ont gagné des procès en disant « Moi, j'ai une maladie chronique à cause de tes voitures que tu ne m'as pas protégé. » Donc Berlin était obligé par la justice, de couper en fait l'accès à certaines voiries. Donc vous voyez bien que quelque part, encore une fois, le statu quo, il ne va pas être possible. On ne va pas se revoir dans 10 ans en parlant de ces sujets-là. Si on revient aux technologies, donc ça c'était le contexte, ce qui est intéressant aussi c'est que les véhicules électriques, en gros pour faire simple, la voiture c'est un moteur. La voiture que vous connaissez c'est d'abord un moteur. BMW, le M ça veut dire moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez, si vous et moi on voulait construire une voiture demain, on est obligé de passer par un motoriste parce que c'est vraiment extrêmement complexe. Je vous passe les détails, mais il y a plusieurs milliers de pièces qui bougent dans une voiture thermique. Hein. C'est d'abord le moteur qui crée les contraintes. Et du coup, en revanche, un véhicule électrique, c'est complexe, mais c'est beaucoup plus simple à construire. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de constructeurs qui peuvent le construire. Et ça veut dire aussi que par défaut, ils sont beaucoup plus modernes. Et notamment l'informatique de ces véhicules-là. Là, je vous ai montré la Tesla Model 3 pour ceux qui connaissent. L'informatique est beaucoup plus intégrée. En gros, si vous regardez votre voiture, même une haut de gamme, j'en ai vu pas mal, hein, quand vous regardez vraiment votre voiture, vous voyez comment est organisée l'entreprise qui l'a fabriquée. Vous voyez si les gens qui s'occupent du pédalier, ils sont plus puissants que les gens qui s'occupent du tableau de bord, ou les gens qui... C'est vrai, hein, je veux dire, vous voyez ça sur les sites internet aussi. Là, ce que vous voyez, c'est que tout est intégré dans un seul écran. Ça paraît trivial, c'est extrêmement complexe à faire. Ça veut dire que toutes les fonctionnalités de l'appareil sont informatisées, et que toute cette informatique, elle passe dans un seul écran. Entre nous, c'est le seul moyen de faire un véhicule autonome. Hein. Si vous n'êtes pas capable de commander l'ensemble de la voiture, donc là, ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est que vous avez une intégration logicielle extrêmement poussée que même les constructeurs automobiles aujourd'hui ont du mal à faire. Là, c'est Tesla qui le fait. Donc, on va voir l'impact que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer de voitures qui étaient compliquées à construire, mais dans lesquelles il y avait de l'informatique relativement simple, pardon pour les constructeurs, hein. C'était assez basique et surtout c'était segmenté, c'est-à-dire vous aviez de l'informatique pour le contrôle de la vitesse, un autre pour de l'admission, à des voitures qui sont plus simples à fabriquer. Une voiture électrique, c'est assez simple, si vous en avez déjà vu à l'intérieur, c'est assez simple, c'est beaucoup moins complexe. Et par contre, avec des logiciels extrêmement complexes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, en stratégie, on dit la valeur se déplace. C'est exactement comme les téléphones avant, hein, je veux dire. La valeur, elle se déplace de l'appareil lui-même, de sa technique, vers ce qui contient et ce à quoi il donne accès, c'est-à-dire à tout ce qui est informatique et télécommunication. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Mobilité partagée. Alors, je réprime mon graphique de tout à l'heure. Quand les gens de l'informatique, quand les gens du numérique ils regardent une voiture, il y a une phrase qui est marrante, c'est Eric Schmidt, le directeur de Google pendant 15 ans, il disait le fait que la voiture ait été inventée après l'informatique, c'est un bug. Ça veut dire quoi? Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il disait, nous, si on avait inventé la voiture, on l'aurait faite complètement différemment. C'est-à-dire, on n'aurait jamais imaginé une voiture qui soit utilisée à 10%. Quand vous discutez avec un informaticien, quand vous regardez du code, tout l'objet, tout le but dans la vie d'un informaticien, c'est d'optimiser au maximum la machine. C'est-à-dire comment utiliser le moins d'espace possible, parce que c'est des gens qui sont habitués à travailler avec des contraintes, le moins de bande passante possible, le moins de mémoire possible, pour avoir le plus d'efficacité. Donc, c'est d'utiliser à 100% la voiture. C'est-à-dire, une voiture, idéalement, elle tournerait 24 heures sur 24. Et puis, elle serait évidemment, s'il y a 4 sièges, elle serait occupée par les 4. Et si vous avez un coffre, ou dans les voitures électriques, il y a 2 coffres, puisque le moteur, il fait la taille d'un ballon de basket, on pourrait utiliser les 2 coffres aussi. Donc, c'est vu d'une boîte du numérique, en fait, ils se disent, la voiture, il faut l'optimiser comme ça. Donc, comment faire? Donc, il y a évidemment... Ça tâtonne, il y a énormément de start-up qui se créent, il y a énormément d'entreprises, là vous voyez tous ces beaux logos. Alors pour l'instant, elles sont plutôt spécialisées. Il y a celles qui sont plutôt spécialisées sur l'autopartage avec des flottes dédiées, l'autopartage de votre propre voiture ou le covoiturage que vous connaissez, donc le partage de trajets. Et puis là, on commence à voir arriver, on va en parler, d'autres nouveaux modes de transport en fait qui sont beaucoup moins chers et qui permettraient de couvrir des plus petites distances. Mais bon, quand même, ça fait 10 ans qu'on parle de covoiturage. Covoiturage.fr, ça date de 2004. Je suis sûr que même ici, vous en parlez depuis longtemps, ça cartonne quand même pas terrible, quoi. Je veux dire, Blablacar, c'est la plus grosse entreprise de covoiturage du monde. Ils ont 20 millions d'utilisateurs. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 70 millions de Français, ils se déplacent presque tous. Il y a 175 millions de déplacements par jour en France. Par jour, 175 millions. Donc, 20 millions... De trajets, c'est pas terrible. C'est bien pour eux, tant mieux, mais vous voyez, ils ont toujours pas atteint l'équilibre. Mais on est quand même sur le trait du crayon. C'est pas avec ça qu'on va résoudre notre problème, les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, faut quand même le garder à l'esprit. On sort souvent le covoiturage comme une solution magique. Aujourd'hui, ça n'a pas encore prouvé, ça n'a pas encore prouvé grand chose, et c'est loin, et c'est pas avec les lois qu'on a fait passer qui limitent le coût d'indemnisation, qu'on va l'améliorer. Le covoiturage court distance, c'est la même chose. Je veux dire, moi, j'ai participé à des projets avec la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, donc pour intégrer les covoitureurs dans la base d'offres, c'est-à-dire, en gros, on leur a donné accès aux 4 millions d'utilisateurs du système d'information. Ils ont donné 2 euros par trajet, de mémoire, de subvention. Malgré ça, on a 25 000 covoitureurs par jour en Île-de-France, sur 12 millions de déplacements. Donc là aussi, on voit que c'est le trait du crayon. Il faut pas se leurrer. Je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, le covoiturage. Je dis juste que tel qu'il est fait aujourd'hui et tel qu'il est soutenu par les pouvoirs publics, c'est le trait du crayon. Il le dit. Je veux dire, Julien, vous l'avez peut-être vu. Donc lui, il travaille, Julien Honnard de Wise Up, ça s'appelle. Lui, il travaille avec des entreprises, avec des collectivités. Donc il va vraiment faire le boulot à la main d'aller voir chaque DRH. Et il le dit. Il dit, les volumes sont faibles, le covoiturage domicile-travail, ça peut pas décoller. Il faut faire baisser le coût pour le passager. Donc vous voyez qu'on a encore énormément de choses à faire. Je suis désolé. Je suis pas venu pour vous donner des bonnes nouvelles. Alors, normalement, à ce stade-là, les gens me disent « Bah oui, mais Stéphane, il y a le véhicule autonome. » Le véhicule autonome, c'est un peu la baguette magique. C'est comme la voiture volante de tout à l'heure. C'est le truc qu'on attendait tous. Donc, c'est magique. Les constructeurs nous disent que c'est pour demain. Alors, ils nous disent ça depuis 5 ans, que c'est pour demain. Donc, ça fait 5 ans qu'ils nous disent ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, il faut faire attention derrière le vocabulaire « voiture autonome ». Il y a plusieurs types de voitures, c'est-à-dire il y a votre voiture à vous qui va devenir autonome, donc ça c'est plutôt celles qui sont à droite là. Alors évidemment il y a la Tesla, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait des tours en Tesla ici, on enlève les mains, c'est super. Il y a la petite en bas à droite, mais elle existe déjà plus, c'était la voiture de Google. Et puis après, ce qu'on appelle aussi voiture autonome, c'est toutes les voitures qui sont faites pour être partagées. Donc on est déjà sur quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire en gros à droite c'est une voiture au sens j'achète une voiture et elle conduit plus. À gauche c'est un taxi. Ou c'est un bus. Donc c'est un bus amélioré ou c'est un taxi amélioré moins cher. Donc déjà, on voit qu'on est sur quelque chose de totalement différent. Ensuite, alors je vous passe les détails, j'ai fait une conférence là-dessus qui est en ligne. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour le véhicule autonome. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, ça veut dire que même quand on aura la technologie qui n'est pas encore là, on aura encore beaucoup de programmes, beaucoup de choses à faire. On ne sait pas s'il va circuler partout. On ne sait pas si qui sera responsable en cas de problème. Ce sera peut-être vous, hein, si ce sont des flottes départementales. On ne sait pas quelle est la bonne stratégie. C'est-à-dire, est-ce que c'est les constructeurs qui vont le fabriquer? Est-ce que c'est les gens du service? Est-ce que c'est plutôt Uber qui va maîtriser la chaîne de valeur? Ou est-ce que c'est plutôt Google? Vous avez suivi l'actualité cette semaine, ça y est, Renault-Nissan, alors ils ont, vous me direz, ils ont pas mal de soucis. Eux, ils ont carrément dit, allez, c'est bon, on va s'allier avec Google, alors ça s'appelle Waymo, la filiale, et c'est Google, quelque part, on va faire exactement comme on a fait dans l'informatique, hein, pour ceux qui ont suivi, ou dans la téléphonie. D'ailleurs, nous, on va faire la coque, on va faire le contenant, et eux, ils vont faire le contenu, ça y est, on va faire tourner ça, parce que finalement, c'est quand même des investissements énormes. Et quand on, de l'autre côté, côté américain, il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire on a des entreprises qui se regroupent parce que ça coûte très cher et le côté c'est l'année prochaine depuis 5 ans, les investisseurs ils commencent à dire bah t'es gentil mais bon moi si je dois tenir 5 ans à ce rythme, on va se grouper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand le véhicule autonome il va arriver de manière graduée. Il va arriver pas sur tous les marchés, mais sur certains marchés. Un peu comme le téléphone, vos enfants ne l'ont pas eu tout de suite. Hein. D'abord, c'était pour les professionnels, pour les navigateurs, sur les chantiers, etc. Ça va être la même chose. Et il est fort probable, comme je vous le décrivais tout à l'heure, que là aussi, ce soit des entreprises du logiciel qui en maîtrisent l'essentiel de la valeur. Ça veut dire qu'ils le commercialisent, qu'ils le designent et qui en possèdent les données. Donc ça veut dire que la voiture telle qu'elle est aujourd'hui, elle va sans doute beaucoup bouger. Évidemment, alors ça je le garde souvent là, là aussi on ne va pas avoir une évolution linéaire. On aime bien les choses linéaires quand on parle d'innovation, c'est-à-dire vous savez, les courbes comme ça, on appelle ça les crosses de hockey, là. Ça fonctionne, c'est super, ça ne se passe jamais comme ça. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des courbes en S, c'est-à-dire ça va avancer, ça va reculer, on va mettre de l'argent pour que ça se développe, puis on va revenir en arrière en mettant des nouvelles contraintes. Évidemment, là, vous avez l'accident du véhicule Uber autonome. À chaque accident, il va y avoir des reculs. C'est d'ailleurs, on est encore sur des cycles assez longs là-dessus. Donc, en gros, si on doit résumer, ce qui est intéressant, c'est de mixer un peu les deux. C'est-à-dire le véhicule électrique et autonome pour tous, sans doute pas. En revanche, ce qu'on voit, c'est sur des courtes distances, on va avoir une électrification assez tôt. C'est-à-dire en ville, de par les contraintes, et puis parce que le véhicule électrique, compte tenu de son autonomie, il est quand même plus adapté à un fonctionnement quotidien, un peu comme votre téléphone, hein, on le charge tous les soirs. Donc là, ça va arriver tôt, et l'autonomie, par contre, ça va être très compliqué, parce que bah, vous savez bien que c'est compliqué de circuler en ville. En revanche, sur des longues distances, il est probable qu'il y ait des exemples d'autonomie qui se mettent en place plus rapidement, notamment dans le fret. Alors, on pourrait imaginer une Rennes-Saint-Malo ou une Rennes... Nantes, où une voie soit consacrée la nuit, par exemple, à des files de camions, en fait. Alors, ça pourrait être des camions électriques, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, des camions autonomes ou autonomisés. Ça, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et donc, là aussi, méfiez-vous, si vous voulez. Les innovations, elles arrivent rarement tout ensemble. Elles arrivent par petits bouts et pas forcément dans l'ordre que vous attendez. Et donc, on revient à notre automobile. C'est-à-dire, finalement, on a dit qu'elle allait être électrique, partagée, numérique, connectée. Est-ce qu'il faut en finir avec l'automobile? C'est-à-dire, est-ce que l'objet automobile, tel que vous voyez dans cette publicité de 2019, qui n'est pas très différente de la publicité des années 60, hein, regardons sérieusement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une meilleure voiture? C'est ça la question finalement. Est-ce qu'on a besoin d'une meilleure voiture? 60% des trajets font moins de 5 km. Ça, c'est les trajets français. Hein, je veux dire, en France, 60% des trajets font moins de 5 km. 40% font même moins de 3 km. Alors, c'est le CEREMA, donc CEREMA, CERTU, c'est le ministère, hein, c'est les chiffres du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on considère la mobilité, c'est un peu comme quand on travaille à l'école, on travaille que quand il y a des notes. Ben, quand on considère la mobilité, on va regarder le déplacement structurant qui est le domicile travail de 32 km qu'on fait finalement que 200 jours par an et encore pas tous les jours parce qu'on télétravaille un peu et qu'on fait finalement que deux fois par jour là où pour aller faire ses courses, emmener les enfants au judo, aller voir maman, on va faire des déplacements beaucoup plus courts. En tout cas, c'est ce que constatent les chiffres qui ne mentent pas comme tout le monde le sait. Là, j'ai pris l'enquête ménage de Rennes Métropole parce que je suis sur une conférence qui est à Rennes. Donc, quand vous regardez les motifs de déplacement, c'est ce que je vous disais, les motifs travail et études, vous voyez, ils ne sont pas majoritaires. Hein, les motifs travail et études, c'est 25 et en bas, c'est 12. 37% du total des déplacements à Rennes. Donc, j'imagine que vous avez eu des présentations de l'enquête ménage déplacement. loisirs, visites, achats, etc. Donc vous avez beaucoup de déplacements finalement qui sont pas, qui ne subissent pas les mêmes contraintes, notamment de localisation, notamment de choix modal. Moi j'entends parfaitement que quand on habite un hameau, et encore une fois je les ai visités, hein, il y a énormément d'endroits qui sont très durs à desservir par d'autres moyens que la voiture particulière, qui peut être le mode parfait. En revanche, il faut bien prendre conscience que cette voiture, elle ne va pas être toujours utilisée pour faire uniquement ce trajet-là, et qu'il y a beaucoup de trajets qui sont captables autrement. Et donc, en tout cas, pour lesquels je n'ai pas besoin d'une meilleure voiture. On revient à nos modes partagés. Tous les modes partagés ne sont pas des voitures. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est en train d'exploser totalement, c'est le partage de véhicules électriques, enfin un moteur connecté, et qui ne sont pas des véhicules du type voiture ou bus. Donc ici, vous avez des vélos électriques partagés. Le vélo électrique, je crois, alors excusez-moi de l'expression, c'est vraiment un game changer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte que le vélo, c'est en termes d'efficacité énergétique, de coût, c'est absolument imbattable. Je veux dire, vous pouvez regarder toutes les publications scientifiques, c'est l'homme sur un vélo ou la femme sur un vélo, c'est quasiment l'animal le plus efficient du monde. Hein, je veux dire, ça rivalise avec le condor, enfin, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est l'homme plus l'outil. Hein. Et quand on rajoute l'assistance électrique, finalement, on lève des freins, sans jeu de mots, à l'usage du vélo, de deux manières. C'est-à-dire, d'une part, on est tous devenus feignants au cours des âges, je suis désolé de vous l'apprendre. Hein. Je veux dire, on a des escaliers mécaniques, on a des ascenseurs, on a des portes mécaniques et on va courir sur des tapis roulants. Mais aussi, tant qu'on n'a pas aménagé l'infrastructure, vous voyez où je veux en venir. Eh ben, le fait de démarrer avec un vélo, croyez-moi, au milieu d'un flot de voitures, de bus et de camions, c'est très anxiogène. Tandis que quand vous avez cette assistance électrique, ben, moi je suis très jaloux, je les vois, ils me passent devant, là, hop, on démarre. Donc le vélo électrique, c'est aussi une manière, l'assistance électrique, c'est aussi une manière de compenser finalement, c'est-à-dire de se mettre à niveau des autres véhicules. Et on le voit, c'est absolument énorme. Alors là, vous avez les 6000 véhicules Vélostar, donc qui ont été loués et achetés par la suite. Je crois qu'on est en train de remettre ce programme. C'est un programme qui est suivi de partout. Vous avez vu que l'Île-de-France nous a encore copié, puisqu'eux, ils en mettent 18 000, je crois, avec le programme Véligo. De mémoire, il y a 18% des gens qui ont affirmé moins utiliser ou ne plus utiliser leur voiture avec ces vélos en location. Je ne vous parle pas de tous ceux qui vont chez Decat pour en acheter. Hein. Donc là, c'est quelque chose qu'on tient. Honnêtement, on n'a jamais eu ces chiffres-là pour le transport public. Je veux dire, on a cherché, on a beaucoup investi, mais là, on a vraiment un truc qui est en train de changer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement mondial. Alors, rien qu'en Europe, ici, vous avez les ventes de véhicules électriques. Allez, on va considérer ensemble qu'on va considérer que les véhicules sont là pour transporter des gens. Donc là, vous avez des gens qui ont acheté un véhicule. En rouge, vous avez les voitures électriques. Vous savez, le truc dont je parlais tout à l'heure. Et en bleu, vous avez les véhicules électriques, tous véhicules confondus. Des véhicules personnels qui transportent une personne pour 60% de ses déplacements. Hein. C'est ça dont on parle. Donc là, vous avez les vélos électriques, qui c'est quelque chose d'absolument énorme. Qu'est-ce qui est en train de se passer? En gros, la moitié des vélos qui sont vendus en Hollande sont des vélos assistance électrique. 40%, pour l'instant c'est 20% en France, c'est 40% dans d'autres pays, 40% en Allemagne. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça va être comme le téléphone. C'est-à-dire, quand vous allez acheter un vélo, vous allez devoir préciser que vous voulez un vélo qui n'est pas électrique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a même des vélos pour enfants qui sont à assistance électrique maintenant. Et ouais. Donc vous avez précisé ça. Deuxième chose, et ça c'est vraiment important, ça veut dire qu'on est en train de solvabiliser la filière. Et ça, c'est important. C'est-à-dire la filière du vélo, on vend 2 400 000 vélos par an, on a, alors, essentiellement utilisés pour le loisir. Ça veut dire qu'on va la solvabiliser parce qu'en volume... ça bouge pas tellement, mais en valeur c'est énorme. Ça veut dire que vous allez avoir une filière de vélos connectés électriques qui devient une filière tout à fait stratégique et importante. Manque de bol, elle est aux mains des Chinois, mais en tout cas ça, il faut le prendre en compte aussi. On a la voiture, mais on va avoir ça aussi. Donc le vélo, changement. Et puis quand vous regardez, si on parle d'efficacité énergétique, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, dans n'importe quel sens, vous retomberez toujours sur le poids du véhicule. Vous tomberez toujours sur un rapport entre le poids de ce qui est transporté et le poids du véhicule. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. Ici, je vous ai mis des kilowatts puisqu'on parle d'électrique. Vous pouvez faire le job de 60% des déplacements avec un véhicule qui a un moteur de 250 watts. Ou vous pouvez faire le même déplacement avec un véhicule qui est 300 fois plus puissant qui est la Zoé, par exemple, qui a 65 kW. Donc là, vous allez tourner le problème dans tous les sens et on finira par arriver à des taxes carbone, à des analyses du cycle de vie sur l'ensemble, etc. Vous pouvez tourner trop dans tous les sens. Est-ce qu'il vaut mieux promouvoir? Et celui d'en haut, il a 5000 euros d'aide publique, hein, pour l'acheter, 65 kW, ou un véhicule de 250 watts. Même chose pour les distances. Quand on regarde, tout à l'heure, on disait donc 60% des déplacements sont courts. Aujourd'hui, le marché adressable, c'est comme ça qu'on dit en stratégie, il est extrêmement important dans les micromobilités. Et chance, il est totalement complémentaire avec les transports publics. Ça veut dire que moi, j'ai bossé 10 ans dans les transports publics. On me disait qu'en gros, un arrêt de bus, c'était tous les 800 mètres, hein, je crois, tous les 500 à 800 mètres. On me disait que le périmètre autour d'une gare, la zone de chalandise, hein, les commerçants connaissent ça, c'était de l'ordre de 800 mètres à 1 km. On parlait du kilomètre piéton. Avec ce type de véhicule, vous couvrez, vous desservez finalement votre territoire. Surtout, encore une fois, les territoires qui sont mal foutus. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque les gens? Vous leur dites, mais t'habites à 800 mètres de la gare. Ah ouais, mais il y a un souterrain, ça sent le pipi. Et puis, il y a une voie rapide, j'ai peur pour les enfants. Et puis là, il y a un lampadaire qui est cassé. Là, vous vous retrouvez finalement avec des objets. Par exemple, les trottinettes, elles peuvent se plier. Hein, il y en a peut-être d'entre vous qui l'utilisent. On peut les mettre dans les transports. On peut mettre les vélos dans les transports quand c'est bien foutu. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir ça. Et donc, on a inventé quelque chose qui finalement vient valoriser le transport public, et pour, encore une fois, répondre à des besoins qui étaient les plus coûteux et les plus complexes. On n'a jamais su faire les transports à la demande qui vont dans les cours de ferme. Je me souviens, on avait bossé dessus, c'est hyper compliqué. Là, les gens, ils les achètent. Donc on a, encore une fois, un potentiel important. Qu'est-ce qui manque? Il manque votre part à vous. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui, pour que la voiture fonctionne, il faut du bitume, il faut des parkings, il faut des voiries. Donc, il manque l'infrastructure. Donc, il y a évidemment la question de l'infrastructure électrique qui est un vrai sujet. Il ne faut pas se tromper. Il faut savoir, est-ce que les gens doivent l'avoir chez eux ou est-ce qu'ils doivent l'avoir... Voilà, c'est un peu comme ici, vous avez sans doute de quoi brancher vos téléphones parce qu'on ne tient pas à la charge. Vous avez du Wi-Fi, vous avez des choses comme ça. Il y a évidemment la question des infrastructures. Alors, j'ose même plus dire cyclables, hein, parce que j'en ai pas parlé là, c'était pas l'objet, mais il y a de plus en plus d'objets, on appelle ça d'engins de déplacement personnel. Je sais pas, moi, si demain, on parle des trottinettes, mais peut-être demain, ce sera des trottinettes avec un siège, des trois roues, peu importe. La technologie le permet. C'est-à-dire, aujourd'hui, les moteurs et les batteries existent, vous pouvez faire fabriquer ça à la demande. Par contre, ce qui manque, c'est les infrastructures. Ici, je vous ai mis Copenhague, vous avez peut-être visité, vous avez des autoroutes cyclables. Ça veut dire que vous avez des niveaux de service qui vous permettent de faire du 25, 30, 35 km/h parce qu'il y en a qui vont vite, et donc avoir des niveaux de performance qui sont tout à fait comparables à la route. Là, je vous ai mis toujours le CRMA, donc c'est des travaux qu'ils font en milieu rural, hein, parce que je sais très bien que j'aurai la question. Évidemment, derrière l'infrastructure, il y a aussi tout un besoin de services, d'accompagnement, de marketing, de communication. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous avez vu pour le covoiturage, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont mis des milliards dans Blablacar, ben ça ne suffit pas. Il y a plein de choses que l'argent ne peut pas acheter. Hein, vous avez une vraie légitimité à faire, hein, je veux dire. Donc il y a énormément de choses qui sont à faire, mais ce n'est pas l'objet ici. Et ensuite, donc c'est pour la fin, je vous ai gardé quand même cette question du numérique, c'est-à-dire que vous avez aussi des nouveaux partenaires. C'est-à-dire il y a le quoi. Et il y a le comment et le avec qui. Dans le avec qui, par exemple, vous avez un partenaire comme Waze. Alors Waze travaille déjà avec des départements, il travaille aussi avec des villes. Là aussi, pour comprendre la mobilité, pour analyser ces changements et puis pour rendre des comptes, aujourd'hui on a besoin de données. Donc là vous avez des villes, alors je crois que c'est à Nice, et puis c'est le département des Alpes-Maritimes qui travaille déjà avec Waze. Donc concrètement, le département donne à Waze des informations que lui seul détient sur par exemple les ouvertures, les fermetures de chantier. À Lyon, il y a 9000 ouvertures et fermetures de chantiers par an. Hein. Donc c'est super de savoir que les gens sont bloqués dans une rue, mais c'est encore mieux de pouvoir le savoir la veille. Et puis de l'autre côté, bah, Waze, il a une base de 13 millions d'applications installées en France. Donc il a une base absolument incroyable et vous l'utilisez sans doute tous les jours. C'est intéressant à avoir quand on doit dimensionner un besoin, regarder l'effet d'une voirie ou d'un nouveau carrefour. Plus dans le public, moi j'ai travaillé sur ce projet donc de Via Navigo avec Île-de-France Mobilité. Donc ça consistait à faire quelque chose de très simple et honnêtement qui a coûté presque zéro. On a travaillé avec tous les développeurs de toutes les applications que vous voyez autour. On leur a simplement permis, quand il y a un trou dans l'offre de transport public, quand il n'y a pas de bus sur un itinéraire, automatiquement on va se connecter avec l'application qui propose des offres de covoiturage, c'est-à-dire je vous passe les détails techniques, on est capable de détecter qu'il y a une offre là-dessus, et on propose du coup à l'utilisateur final une solution de covoiturage sans qu'il ait besoin de jongler entre trois applications, etc. Et tout. C'est très perfectible, c'est un début, c'est en open source, ça veut dire que si vous voulez le mettre en place demain matin, c'est gratuit, vous récupérez le code, vous l'implémentez, vous le filez à votre service. Ça, c'est un exemple aussi de partenariat, c'est-à-dire chacun fait son job, c'est la ville, en l'occurrence c'est Île-de-France Mobilité qui tient les curseurs, c'est lui qui définit ce que c'est qu'une offre qui est ouverte au covoiturage ou pas, mais ça c'est typiquement le genre de partenariat qui coûte pas cher et qui va exactement dans le sens de faire levier finalement de la puissance et de l'inventivité des applications qui sont autour. Je suis toujours dans mon actualité. La semaine dernière, la SNCF, alléluia, a décidé d'ouvrir son application à d'autres transporteurs. Alors même Uber, on dit souvent Uber, c'est le grand méchant. Ça veut dire que à travers cette application, vous allez pouvoir avoir tous les modes de transport, plus des services de taxi ou de VTC sur l'application mobile SNCF. Donc ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit aussi, et là je me permets, on est entre nous, quand ils vous disent, vos opérateurs, « Ouh là là, attention, ne faites pas avec eux, c'est des méchants, etc. », gardez votre propre avis, faites-vous conseiller par des consultants indépendants. Et non, mais sérieusement, je veux dire, tout ça pour qu'après, c'est eux qui le font. Hein, donc ça veut dire, je ne vous dis pas qu'il faut sauter dans les bras des startups de Google et d'Uber. Je vous dis juste, gardez votre jugement sur ce que vous pouvez. Vous savez très bien faire levier de l'investissement privé. Hein, c'est-à-dire c'est votre boulot, faites ça tous les jours, vous avez des hacks, vous avez tout un tas de conventionnements. C'est la même chose dans le numérique, il n'y a pas de magie et il n'y a pas de diablerie. Enfin, là ça va encore un peu plus loin, vous avez la ville de Nice par exemple qui travaille avec le service Uber, donc en gros avec un service de taxi, on va appeler ça comme ça. Et ce qui est original, c'est qu'au lieu de lui garantir un fixe, et de signer une convention sur la durée, il subventionne les individus, on va dire, il subventionne les clients, c'est-à-dire il subventionne chaque trajet. Donc c'est un truc, c'est très liquide comme on dit, ça veut dire que s'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de fixe. Et donc le chauffeur Uber, il va lui facturer 12 euros et ça va coûter que 6 euros à l'utilisateur final. Enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous avez des villes qui travaille directement avec Google en tant qu'aménageur. Donc Jean-Claude Decaux, méfie-toi, enfin il est mort. Mais bon, ici vous avez donc à New York, si pour ceux qui ont été à New York, vous avez des bornes Wi-Fi, qui sont des bornes multiservices, qui sont installées directement par Google. Alors c'est vachement pratique quand vous êtes touriste, hein, ça vous évite de payer votre billet d'avion en facture Internet. Et voire même, ils sont en train de travailler, en fait, et ça c'est intéressant parce qu'ils ont une vision complètement différente avec des aménageurs et des architectes pour aménager un quartier à Toronto, donc au bord de... C'est une très grosse opération d'aménagement. Et notamment, vous voyez, ils sont en train d'inventer, alors je sais qu'il y a des routiers ici, ils sont en train d'inventer une chaussée modulable, alors avec des capteurs, et qui va fonctionner sous forme d'hexagone, hein, ça parle beaucoup, c'est une invention française. Et donc, ça va leur permettre de faire, non seulement d'avoir une... un entretien qui est beaucoup plus simple, hein, comme les pavés d'antan, hein, c'est-à-dire on va changer une plaque et pas toutes les plaques, mais aussi avec ce système lumineux et de capteurs, de pouvoir mettre plusieurs fils de bus par exemple ou vélo selon l'heure, selon les lieux, sans que vous connaissez ça, faire des travaux, des bordures, de la signalétique, etc. Donc là aussi c'est à regarder, ça ne veut pas dire qu'il faut leur sauter dans les bras, mais il se passe des choses de ce côté-là aussi. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à l'année prochaine.
Bien, peut-être que tout ceci suscite un certain nombre d'interrogations, en tout cas de mise en perspective. On peut se donner un petit quart d'heure pour prendre quelques questions s'il y en a. Donc, Madame Guyon, Monsieur Martins, Monsieur Potrel, Madame et Monsieur Benoît. Alors, Madame Guyon et Monsieur Bonin.
Merci. Alors d'abord... Pardon.
Bon, alors je prends la première vague, il y en aura une deuxième. Madame Guyon.
Merci. Mais d'abord, monsieur, j'avais envie de vous dire bravo. Formidable, c'est court, elle est ici. Ça y est. C'est court, c'est rapide, on comprend. Formidable.
Merci.
Alors, j'ai deux questions. La première, vous parlez de possibilité de fils de camions autonomisés de nuit. Alors moi, j'ai l'impression que je connais les fils de camions autonomisés de nuit. C'est le train, en fait.
Oui.
C'était le fret ferroviaire et ça s'appelait la Cernam jadis.
Absolument.
Voilà. Donc j'aimerais bien, si vous pouviez m'expliquer l'intérêt des files de camions au bord des autoroutes la nuit par rapport à l'intérêt des files de wagons sur les voies le jour, ça m'intéressera, c'est ma question. Et la deuxième question, c'est effectivement partout, moi je trouve que ressort le problème des infrastructures. Je suis extrêmement étonnée en tant que fille du Nord par la lenteur de la France dans cette évolution. Et j'aimerais bien savoir si, de votre point de vue, le problème des normes bloque ou pas les évolutions de l'Hexagone, de toutes les normes autour des pistes cyclables, de leur largeur, de leur machin, de la sécurité, pas la sécurité, enfin, tout ça. Merci
Alors,
beaucoup.
Je propose, on prend les questions par série de 3 intervenants pour cadencer un petit peu les choses. Donc, M. Potrel et M. Benoît pour la première série.
Oui, donc merci pour votre présentation. Donc vous avez évoqué tout à l'heure les territoires un peu plus ruraux. Donc moi je vis sur un territoire rural. On n'a pas de ligne de transport collectif, on n'a pas de gare ferroviaire. Et je reste persuadé que par rapport aux évolutions de notre 21e siècle, aux enjeux climatiques, à l'évolution des technologies, notamment le numérique. Tout à l'heure, on parlait de télétravail. Ces territoires qui sont un peu ignorés en matière de transport collectif auront un rôle à jouer demain en termes d'économie, de numérique. Et c'est vrai qu'on a vu peu de choses dans votre présentation. Vous disiez tout à l'heure que ça coûtait beaucoup plus cher d'habiter en périphérie. Je ne suis pas convaincu. Et j'assistais à un certain nombre de réunions qui disent que la densification des populations favorise le réchauffement climatique. Donc par rapport aux territoires ruraux, hein, qui ont une capacité de logement dans le cadre de la reconquête des logements vacants, quelles sont les orientations pour répondre aux enjeux de la mobilité? Et tout à l'heure, vous avez évoqué la crise sociale du mois de novembre, hein, qui a débuté le 17 novembre. C'est le prix du carburant, hein, qui a lancé cette crise sociale. Et je dirais que les territoires ruraux, ceux les plus éloignés des activités économiques et des services publics, ont été assez revendicatifs. Voilà.
Alors, Monsieur Benoît, alors si possible pour l'ensemble des inscrits, je n'oublierai personne, des questions compactes pour permettre des réponses compactes elles-mêmes. Monsieur Benoît, puis après on donnera
oui,
la parole à l'intervenant.
Une présentation naturellement très intéressante. Je m'inscris dans le prolongement de ce que vient de dire Louis Potrel. Il y a un vrai sujet sur la manière d'arrimer l'ensemble des territoires aux questions de mobilité. On ne parle plus de transport, on parle de mobilité. On voit bien l'évolution. Ici, dans cette enceinte départementale, à l'époque du Conseil général et maintenant Conseil départemental, il y a un vice-président en charge des transports, et gentiment, les choses mutent et on parle de mobilité. Donc il y a une vraie question, ce que disait Louis Potrel tout à l'heure, comment les territoires peu denses, donc qualifiés les territoires ruraux et villes moyennes, sont arrimés aux nouvelles technologies de la mobilité. Là, il y a un sujet. Et moi, il y a un sujet qui me préoccupe, c'est que l'agriculture, elle est potentiellement source, parce que la question de la mobilité du transport telle que vous l'avez présentée, en évoquant notamment les questions de motorisation et motorisation électrique, c'est la question de la fin des énergies fossiles, de l'empreinte carbone et de la préservation de l'environnement. Et s'il y a des territoires qui ont un rôle majeur dans la question de l'empreinte carbone, de piège à carbone, et donc protection de l'environnement, que ce soit de la ressource en eau, production d'énergie, y compris pour la mobilité, ce sont certainement les territoires agricoles. Et je m'étonne que dans votre présentation, vous, dans l'exposé que vous venez de faire, vous axiez uniquement, mais c'est valable aussi au niveau national, à l'Assemblée nationale, le projet de loi mobilité, axe pratiquement tout sur l'énergie électrique. Et le conseil départemental, eh bien, il est raccord avec l'actualité, où je dirais que notre quotidien du matin est raccord avec l'ordre du jour du conseil départemental. On va prendre ça dans ce sens-là, puisque dans le même journal, aujourd'hui, et c'est ce à quoi voulait faire allusion notre vice-président André Lefeuve à l'instant, dans son propos introductif, dans le même journal, on parle de la mutation de la filière automobile. On dit, la motorisation thermique, c'est terminé, on va vers la motorisation électrique. Et la page d'après, on nous explique le fiasco de l'électricité en France d'origine nucléaire. C'est d'ailleurs le titre, un fiasco. Et donc, ma question, pourquoi vous autres qui êtes des gens qui pensaient, qui réfléchissaient, qui nous aidaient à prendre de la hauteur et à nous placer en perspective, pourquoi pas un mot sur l'hydrogène, pas un mot sur le bioéthanol de deuxième génération, c'est-à-dire les coproduits issus de l'activité agricole qui pourraient servir d'énergie, parce que le tout électrique, que ce soit l'énergie nucléaire avec Flamanville ou les batteries et la question des terres rares et des métaux précieux, il y a quand même une empreinte écologique et puis une question de responsabilité sociale environnementale qui nous interroge. Et donc, j'aurais voulu avoir votre point de vue sur ces questions-là et voir comment les territoires ruraux et agricoles, eh bien, sont le potentiel qui vient en complément et qui permet à l'urbanité, je dirais, de vivre en symbiose l'un avec l'autre.
Bien, donc, si notre intervenant, M. Schultz, peut apporter des réponses, je redis aux intervenants, soyez concis, sinon on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais quand c'est fait, c'est fait. Et c'est trop tard après.
En plus, vous ne me connaissez pas, mais moi, je suis rarement concis. Ferroviaire contre le camion, évidemment. Donc, pour votre question, madame, donc sur ce qu'on appelle le platooning, donc c'est le fait de dire, en gros, on va avoir un camion qui va piloter les camions qui sont derrière. Oui, c'est un peu une cautère sur une jambe de bois parce qu'on a toujours des camions. L'avantage, il y a deux avantages. C'est que vous n'avez pas besoin de transférer la marchandise. Hein, c'est un peu comme si votre voiture, quand vous êtes sur l'autoroute, et vous n'avez plus besoin de la conduire et vous pouvez faire autre chose. Mais par contre, pour rentrer dans votre hameau et descendre dans votre garage sans la rayer, là, vous allez reprendre la main. Hein, donc c'est ce fonctionnement-là. Donc c'est pas du même ordre que le ferroviaire. On arrivera à faire peut-être des rails virtuels, ça arrivera à quelque chose comme ça, c'est-à-dire on va attacher des caisses. Alors il s'avère qu'elles seront sur des pneus, parce que c'est pratique, mais il y a aussi des trains sur pneus, des métros sur pneus, des tramways sur pneus. Après, qui est-ce qui va exploiter ça? Parce que c'est un autre sujet. Bon, moi je sais pas, je suis pas spécialiste, je sais pas pourquoi le fret ferroviaire, il a baissé comme ça. Ça me chagrine. En plus, j'ai un fils qui est passionné de ça, qui passe toutes ses journées à regarder des trains de marchandises, donc je suis doublement peiné. Maintenant, je suis aussi peiné de voir ces files de camions ininterrompues quand je descends chez ma mère dans le sud-ouest. En attendant, ce serait déjà pas mal dans le pas à pas. Encore une fois, ça va venir plus rapidement. Donc je ne sais pas répondre à votre question sur le ferroviaire. Oui, il y a besoin d'infrastructures. Là, c'est quand même une super exploitation de l'infrastructure existante parce que vous avez construit des routes à 2x2 voies. Elles sont aussi mal utilisées. Si on peut faire rouler des camions la nuit plutôt que le jour, et c'est quand même ça l'avenir. Moi, je bosse beaucoup avec des acteurs de la logistique. L'électricité va nous permettre de livrer la nuit. Et ça, c'est un énorme changement, parce que si on peut livrer la nuit, on fait pas de bruit avec l'électrique. Hein. Je veux dire, si on peut livrer la nuit, on va beaucoup mieux, on va libérer les villes la journée, on va libérer les livreurs, on va changer énormément de choses. Donc ça, c'est la première réponse. La question des normes bloquantes, c'est difficile de répondre aussi généralement. Je crois que ce qui est vraiment bloquant, alors là, je me place du point de vue des opérateurs et des entreprises, ce qui est bloquant, c'est pas les normes, au contraire. Les normes, c'est très utile, je veux dire, c'est un cahier des charges. Ce qui est bloquant, c'est les normes plurielles. C'est quand il y en a trop, si vous êtes livreur, par exemple, si vous travaillez dans le fret, hein, d'une ville à l'autre, les normes changent. J'ai vu que la loi d'orientation sur les mobilités, pour ce qui concerne nos chères trottinettes, elle va donner la compétence aux villes. Ça veut dire que d'une ville à l'autre, quand je vais être à Champs-de-Py, je ne vais pas avoir les mêmes règles que quand je vais être à Rennes. Ça va être indémerdable. Donc, j'espère que vous allez travailler à avoir des normes standards, des grands standards, si possible, au niveau le plus pertinent, c'est-à-dire le niveau continental. hein, notamment dans le ferroviaire, dans le transport, etc. C'est continental, et que vous allez toujours travailler en symbiose avec les autres collectivités pour faire les choses les plus simples possibles. Après, sinon, les normes, non, c'est très utile. Enfin, on a besoin de normes quand on est une entreprise. Quand vous regardez, encore une fois, même dans le numérique, il y a des normes, il y a des codes, il y a des choses. Si vous voulez créer une application qui tourne là-dessus, vous avez beaucoup plus de règles que dans la vraie vie. Hein. Vous avez des règles qui sont beaucoup plus sévères pour mettre une application là-dessus que pour créer un journal, par exemple, ou pour publier quelque chose. Donc les règles, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous avez des règles qui sont trop nombreuses, incohérentes et qui créent une insécurité et une complexité. Ça va, je suis assez court. Sur le rural, donc évidemment, on avait prévu deux intervenants, dont un qui ne nous parlerait que de rural. Donc je suis un peu embêté, parce que Marie-Hugues devait nous parler justement que d'expérimentation rurale. Alors pour pas gâcher ce qu'elle va dire, mais quand même, elle parlait quand même beaucoup de vélo. Alors pourquoi elle parlait de vélo? C'est parce que quoi de neuf le vélo? Je suis désolé, hein, c'est pas les voitures volantes, c'est le vélo. Il y a quand même, dans les territoires ruraux, y compris en termes d'attractivité, et moi, j'adhère complètement à votre discours qui est de dire le rural, c'est l'avenir, c'est-à-dire les gens vont pas tous pouvoir s'empiler en ville, dans des tours, et ils vont vouloir habiter à l'extérieur. Encore faut-il qu'il y ait un minimum de, on dit setup en anglais, hein, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum d'installation, sans quoi ils viendront pas. L'installation, c'est quoi? C'est du réseau, donc il faut qu'ils puissent téléphoner et avoir de la fibre, mais ça, je crois que c'est en route. Hein. Et ensuite, il faut aussi qu'ils puissent se déplacer sans y laisser la moitié de leur... de leurs revenus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les transports vers la ville, je pense que encore une fois, ça va être compliqué effectivement de mettre des transports. Par contre, pour les transports vers la gare la plus proche, ça, il y a quand même énormément de choses à faire. Aujourd'hui, si vous voulez mettre des parkings autour d'une gare, alors je me souviens les discussions sur la gare de Laillé ou des choses comme ça. La gare de Laillé, dans la configuration, je crois qu'on pouvait mettre 7 voitures, un truc comme ça. Donc cette voiture, c'est 7 fois 25 mètres carrés. Hein. Les aménageurs, ils prennent 25 mètres carrés pour garer une voiture. Dans 25 mètres carrés, vous mettez 25 vélos. Et encore, vous pouvez leur mettre des chargeurs, des pompes à vélo, des fontaines à eau, et peut-être même un distributeur de bonbons. Je plaisante à peine. Donc faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se déplacer avec d'autres modes que la voiture dans vos territoires? Je parle de l'intérieur de vos territoires. Et encore une fois, moi, mes grands-parents, moi, je suis petit-fils d'agriculteur, hein, mon père est né à la campagne, et ils se déplaçaient à vélo. Hein. Je veux dire, c'est, à l'époque, c'était faisable. Maintenant, encore, vous avez des vélos qui sont plus infamants. C'est pas infamant de se déplacer à vélo. Vous avez des vélos qui montent à 50. Hein. Alors, les nôtres sont limités à 25, mais vous en avez qui vont vite. Donc, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'aller acheter son pain, d'aller au judo ou d'aller à la gare la plus proche de vos territoires? Ça, c'est votre responsabilité. Je pense que vous devriez plus vous atteler à ce travail-là que à se demander comment Rennes va vous laisser rentrer des voitures supplémentaires quand on voit les courbes de prévision de trafic à l'entrée sud, nord, est, ouest de Rennes. Vous savez très bien que ça rentrera pas. Je veux dire, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, ça ne rentrera pas. Donc la vraie question, c'est comment vous pouvez rajouter du monde sur les transports collectifs et comment vous pouvez permettre aux gens qui habitent vos territoires de faire une majorité, encore une fois, c'est une majorité des déplacements qu'ils font, sans utiliser leur voiture. Et après, qu'elle soit électrique ou pas, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, pour répondre sur l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on n'utilise pas. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Et encore une fois, si vous discutez avec des scientifiques, vous allez revenir sur le poids. Moi, je ne crois pas qu'il faut interdire aux gens de se déplacer. D'ailleurs, c'est impossible. Je veux dire, les gens se déplacent. Grosso modo, il y a deux facteurs qui sont intangibles depuis 50 ans. Quand vous regardez les mobilités, je pense que Marie-Huig nous l'aurait dit, vous avez deux choses qui sont intangibles. Vous avez à peu près le nombre de déplacements. C'est-à-dire, non, on ne se déplace pas plus qu'avant. Je veux dire, grosso modo, et on se déplace d'ailleurs pas beaucoup plus en périphérie ou dans le rural qu'au centre-ville. On se déplace pas tant que ça, c'est-à-dire en gros on fait 3,7 déplacements à peu près en moyenne. Donc on n'a pas une frénésie de déplacement. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé beaucoup plus profondément, mais pas les déplacements. Et la deuxième chose qui est constante, c'est le temps de trajet. Le temps de trajet quotidien, ce qu'on peut appeler le budget temps, on appelle ça la constante de Marchetti, donc on dit constante, hein, c'est pas pour rien, c'est un chercheur qui a mis ça en place. Ça veut dire qu'on passe le même temps dans les transports, quel que soit le mode, que nos grands-parents. Ça fait plus de 50 ans qu'on passe 53 minutes dans les transports en moyenne. Simplement avant on marchait 53 minutes, après on a fait du vélo, et maintenant on utilise ces 53 minutes pour faire autre chose. Alors, il y a un élément qui est embêtant pour vous, ça veut dire que plus vous allez rajouter de la vitesse, parce que quelque part, de la voirie, c'est de la vitesse, vous n'allez pas réduire le temps, vous n'allez pas redonner du temps aux gens, vous allez leur permettre d'habiter plus loin. Hein, la vitesse, c'est de la distance fois du temps. Donc ça, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Vous allez faire venir 10 chercheurs, ils vont vous montrer la même chose. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez rajouté du TGV, que vous avez rajouté du TER, que vous avez rajouté une voie supplémentaire, que vous avez remis un échangeur à la place d'un rond-point, les gens sont allés habiter plus loin. C'est-à-dire qu'ils conservent ce temps-là. Donc ça doit vous faire réfléchir. C'est-à-dire, vous pouvez réfléchir en mode culpabilité ou en mode politique, c'est-à-dire le vélo c'est mieux que la voiture, mais vous devez aussi vous dire où est-ce que mon argent est le mieux utilisé. Et honnêtement, je pense que vous devriez vous sérieusement reconsidérer le déplacement des personnes et pas le déplacement des véhicules. C'est-à-dire, quand vous déplacez une personne, vous avez la même valeur économique que quand vous déplacez un camion ou une voiture. Ça veut dire qu'un déplacement à vélo, un déplacement avec un mode léger, un déplacement raccourci, ça a la même valeur économique qu'un déplacement long. Je suis désolé, je ne sais pas si je suis clair, mais... Donc ça, c'est un changement profond. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous dire que votre métier, c'est de déplacer des bus, des cars, des trains, ou des voitures, ou des vélos. Votre métier, c'est de déplacer des gens. Donc, aussi dans les territoires ruraux. Pour moi, l'erreur du territoire rural, c'est de penser qu'il a une espèce de... C'est une victime du système, et donc, du coup, il est obligé de garder du thermique et de la voiture particulière. Il en a besoin pour aller à la technopole de Cesson pour aller bosser, il en a besoin pour aller à la Jeannet pour aller bosser, mais encore une fois, c'est 200 jours par an sur 365, et vous avez vu, c'est que 25% des déplacements, parce que vous avez des gens qui ne travaillent pas, etc. Sur les technologies bioéthanol, etc., alors nous, on a une histoire avec André Lefebvre sur le bioéthanol, hein. On a essayé, hein. Hein, la promesse, c'était que les agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, je me souviens, je m'étais même fait engueuler parce que j'avais osé être contre. Je m'étais fait tancer vertement par le président de l'époque. Donc non, le bioéthanol, c'est pas une bonne idée. Je suis désolé, ça on peut le retourner dans tous les sens. C'est mettre en compétition. Enfin, vous connaissez les arguments. Vous mettez en compétition l'alimentation avec ça. La bonne solution, c'est de moins consommer. Ah d'accord, là très bien. Oui, le GNV, bien sûr. GNV, hydrogène, oui, bien sûr, absolument. Pardon, j'étais resté sur bioéthanol. Donc oui, y a encore beaucoup de progrès à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, l'électrification du parc, elle va poser des nouveaux problèmes, notamment des problèmes de stockage. Donc l'hydrogène va, à mon avis, décoller. Maintenant, encore une fois, vous êtes un grand département dans un grand pays qui est dans un grand continent, qui est dans une grande planète. Vous allez avoir du mal. Enfin, vous prenez un certain risque à vous mettre en orthogonale par rapport à ce que font les autres. Souvenez-vous, ici, on a fait un Minitel, on a fait des choses comme ça. Donc, je sais que c'est compliqué. Moi, donc, vous m'accusiez un peu. Moi, je suis venu vous le dire en intro. Je vous dis ce qui se passe. Je vous dis pas ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, je vous dis aujourd'hui sur quoi les gens travaillent, sur quoi les constructeurs travaillent, sur quoi les gens du numérique travaillent. Ils travaillent sur ces solutions-là. Je ne dis pas que c'est les meilleures solutions. Je dis, vous allez peut-être en trouver d'autres, mais attention, voilà, vous allez avoir ces voitures, ces bus, ces engins qui vont arriver électriques. Vous pouvez essayer de développer une autre filière, ok. Mais pour moi, la meilleure filière, encore une fois, c'est celle qui ne consomme pas. C'est comment faire pour que les gens consomment moins d'énergie. Ça veut dire des modes plus légers. Encore une fois, hein, le poids, c'est essentiel dans tous nos calculs, que ce soit pour la production, pour le recyclage, pour la consommation. Et sur les déplacements qui sont adressables, qui sont des déplacements courts, raccourcir les déplacements, mais ça, vous le faites. Vous construisez des collèges, vous construisez des médiathèques, vous maillez le territoire. Donc, il n'y a pas mieux pour raccourcir les déplacements. Donc, vous le faites. Rendez ces équipements accessibles par d'autres modes, encore une fois, que des modes lourds qui consomment beaucoup.
Bien, alors je devrais suspendre hein, cette discussion à midi, parce que sinon on ne s'en sortira pas cet après-midi. Alors je prends les interventions de Monsieur Martins, Madame Micheneau, Monsieur Bonin dans un premier temps. On verra s'il y a encore des possibilités. Eh oui, mais je dois tenir le temps. Ça fait partie de mes responsabilités. Alors Monsieur Martins se sacrifie, on lui en est reconnaissant. Monsieur Boursier, vous n'allez pas en profiter.
Très court. Quand est-ce qu'on décolle du sol à la fois sur nos propres déplacements, mais on entend la livraison par drone, etc. On voit tout un tas de technologies qui ont commencé, qu'on peut comparer au train, etc. On nous parle d'hyperloop, des trucs qui nous mettraient à 10 minutes de Saint-Malo. Ça, c'est quoi la crédibilité de tout ça, et quand est-ce que ça peut arriver dans un contexte où vous avez bien expliqué que il faut adapter l'outil à la mesure du déplacement.
Merci, Madame Michenot, et puis Monsieur Bonnin ensuite.
Merci. Bon, il y avait des éléments qui ont déjà été dits par Monsieur Benoît, notamment sur l'hydrogène, en sachant que sur le pays de Redon, il y a un gros travail qui est mené expérimental pour développer une voiture à l'hydrogène et autour les réflexions sur les usages et donc les différents types de mobilité autour, parce que je pense que c'est un nouvel outil, mais il faut toujours considérer aussi les usages, infrastructures, offres, etc. Peut-être dire, effectivement, d'enlever la morale aussi dans nos questions de mobilité, le bien, le mal, avoir une voiture pour soi. Voilà, on a nos rapports à l'outil, au mode de déplacement, et je pense que c'est important qu'on soit vigilant sur cette forme pour aborder le sujet. Pour moi, c'est vraiment des questions complexes, effectivement, de mode de déplacement, de non-déplacement, d'outils de déplacement, mais aussi d'offres d'infrastructures. À titre personnel, moi, j'essaie d'avoir des véhicules GPL ou E85. Je n'ai pas de garagiste qui peut faire une transformation sur le territoire parce qu'une marque française a interdit aux garagistes de le faire. Donc, il y a quand même aussi des questions à se poser à ce niveau-là en termes de liberté sur nos choix de mode de déplacement et d'outils de déplacement. Pour la question que j'avais aussi en tête, c'était sur Oise. C'est une formidable idée, cet outil. Par contre, attention comment aujourd'hui c'est mis en place et au niveau volet social. Moi, j'ai appris que les chauffeurs Uber ont obligation de remplir cette application et sont en auto-entreprise. Moi, je suis contre aussi ces formes de travail. Moi, je travaille dans une coopérative d'activité d'emploi où on défend l'entrepreneuriat salarié. Et je pense que c'est important aussi que nous, dans nos choix politiques, on fasse attention à ces éléments-là. Et je voulais dire autre chose, j'ai oublié, et sur les... ce que je voulais dire, c'est que sur le pays de Redon, encore, excusez-moi, mais il y a eu un travail qui avait été fait, malheureusement, je suis vraiment déçue, ça n'a pas été au bout, de combiner les modes de mobilité, de transport, de personnes et d'objets. Et je pense, moi je suis d'accord avec vous, qu'il faut considérer le déplacement des personnes et pas des outils de déplacement. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à remettre aussi au goût du jour où on transporte des personnes et de la marchandise? Je pense à nos amis africains, hein, ça existe encore, ça s'appelle Taxi Bruce.
Bien, donc là c'est une question à tête multiple. Monsieur Bonnin.
Merci. Bien, trois questions, mais la première, vous allez... Oui, enfin c'est... Je découpe mon sujet, mais je ne vais pas le multiplier à l'infini, Monsieur le Président. Sur un plan technologique, la batterie d'hier n'est pas celle de demain, et pas celle d'aujourd'hui. Donc je voulais simplement, eu égard à la position d'observateur qui est la vôtre, en termes d'évolution technologique, l'enjeu est-il de desserrer l'étau chinois sur les terres rares, que l'on parle du lanthane, du tantane, du lithium et bien d'autres. Ça me paraît un sujet extrêmement important dans la poursuite de la mobilité électrique. Je pense bien sûr aux autres, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Moi-même, j'ai quelques réflexions à faire avancer et je pense qu'on pourra s'y retrouver souvent, mes chers collègues. Je ferai aussi une remarque, parce que vous avez parlé de la Jeannet, pour dire quand il y avait 15 000 salariés, il y avait 2 500 000 km qui se faisaient chaque année dans des bus. Ils n'étaient pas électriques, hein, on est d'accord. Chacun sait aussi que la désindustrialisation fait que vous avez aussi une tertiarisation où il y a une plus grande autonomie de déplacement. Et qu'il y a une explosion des déplacements individuels, bon, sauf quand on fait du télétravail, ma chère collègue.
Béatrice Sacnerova.
Excuse-moi. Voilà, merci. Ça, c'est un premier point. L'autre point, je voudrais aussi dire que nous pouvons peut-être faire de nos échecs du passé un succès. Je parle bien de l'Assemblée qui est ici. Je citerai Marie Daugan. Notre cher Lefebvre n'était pas encore vice-président des routes et notre ami Martins ne l'avait pas encore pris. Nous avons eu un échec, nous avions mis, et il y a d'autres collègues ici de la minorité avec lesquels j'ai toujours eu les meilleures coopérations, nous avons porté un projet, nous avions mis sur la table 100 millions d'euros. Et nous nous sommes battus dans les années 90. À l'époque, j'étais au Codespar. L'objectif n'était pas de faire du TGV à 300 km/h pour aller à Paris seulement.
c'était aussi de transférer le fret d'une région qui est un des plus grands affréteurs logistiques avec l'agroalimentaire dans la solidarité bretonne. Eh bien, souvenons-nous des discours aussi des soutiens de Gérard Lahellec à la région à ce sujet, chers amis. Hein. C'était effectivement le transbordement du fret routier vers le fret ferroviaire sur le faisceau conventionnel, qui bien sûr est aussi utile pour nos amis, et pas seulement de Vitré, de Montfort, Montauban, je veux parler bien sûr de la voie ferrée conventionnelle. Donc à cet égard-là, je voulais simplement dire que nous sommes toujours sur des sujets d'actualité, nous n'avons pas forcément les moyens aujourd'hui pour y revenir, nous avons aussi ouvert Guelmes-Moron qui est refermé jusqu'à Saint-Main. Et bien sûr, si j'ai parlé de Marie Dogan, c'était le combat que je lui reconnais pour la Brohinière. Sinon, c'était le site de Châteaubourg. Donc sur tous ces points, je veux simplement reparler, les mettre dans l'actualité. Et puis ma seule question, mon cher monsieur Schulz, c'est évidemment l'enjeu qui est celui des progrès techniques et de notre capacité demain à ne pas développer des technologies dont nous sommes dépossédés, comme c'est le cas probablement et tristement pour l'industrie de la mobilité et pas seulement de l'automobile.
Merci. Alors, vous essayez de compiler tout ça pour...
4 minutes, je vois ça.
Oui, 3 minutes. On va 5 alors.
Quand est-ce qu'on décolle du sol? On va dire qu'on décolle pour les mêmes raisons que j'évoquais, c'est-à-dire on est capable de miniaturiser maintenant des batteries et des moteurs électriques, on est capable de faire voler des engins. Alors aujourd'hui c'est assez limité. Alors oui, il y a de la livraison par drone qui existe. Pour l'instant c'est limité à certains types de territoires, mais aux États-Unis ils ont eu les autorisations. Donc ça peut concerner, vous pouvez effectivement augmenter la zone de chalandise des hyper qui sont autour, qui sont dans vos territoires et desservir les secteurs qui sont à 3-4 kilomètres autour avec des drones. Ça va sans doute pas tarder, on va dire, c'est dans les 3-5 ans maximum. Ça c'est quelque chose qui va fonctionner. Je sais pas si ça va vraiment en termes de volume changer quoi que ce soit ou être plutôt... Alors, en anglais, on dit est-ce que c'est un must-have ou c'est un nice-to-have. Je ne sais pas si ça va vraiment être un must-have, c'est-à-dire si ça va remplacer. Je pense que ça va plutôt être un nice-to-have, ça va être un petit gadget qu'on va proposer dans un premier temps, c'est-à-dire ça va générer des livraisons supplémentaires et ça va être un peu fun de voir arriver ça dans son jardin. En termes de volume, on n'est pas du tout, et c'est le problème avec l'électrique, on n'est pas du tout dans les quand vous commencez à regarder les volumes transportés de marchandises quotidiennes, le fret, etc., on n'est pas du tout à l'échelle. Donc c'est intéressant pour les marchandises, dans certains cas, il y a même des avions maintenant qui sont pilotés. Moi, je le mets pas encore dans mon radar. Quand je fais mon radar d'innovation, je le mets plutôt en haut à droite, c'est-à-dire les technos sont pas encore au point parce qu'on a une très faible autonomie et le marché n'existe pas aujourd'hui parce que vous avez un concurrent dont on a beaucoup parlé, qui est le camion avec ses 25 tonnes d'emport, avec un conducteur qui roule pendant 4h30. Donc ça, c'est la première réponse. Donc c'est crédible, mais faut encore un petit peu de temps. Donc Redon, alors moi j'aime beaucoup Redon, j'aime beaucoup ce que fait la Medefi à Redon, je les cite souvent en exemple et je crois que c'est vraiment un endroit où on invente des choses et où on réfléchit, c'est là-bas, c'est pas de la flagornerie, hein. Je veux dire, j'ai fait intervenir dans beaucoup d'endroits. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à inventer, pas forcément du côté des technologies pures, mais dans la manière de les combiner, de les utiliser et de les combiner, donc... avec évidemment, vous êtes des services publics, vous êtes des représentants d'autorités publiques, évidemment des clauses morales, des clauses sociales qui sont essentielles. C'est-à-dire si vous lâchez ça, je vous donne mon opinion, si vous lâchez ça, là effectivement c'est foutu. Après, il faut en assumer le coût. Évidemment, c'est moins cher de travailler avec des indépendants. J'en sais quelque chose, hein. Je suis pas salarié. C'est moins cher de travailler avec des indépendants. Ça permet de lancer des choses éventuellement. Ça permet de tester et de revenir en arrière. Après, il faut être capable pour vous d'être capable de basculer ça dans le cadre de conventions qui sont peut-être pas les conventions, mais c'est un autre sujet. Je reviendrai peut-être pour parler de ça. Et comment est-ce qu'on conventionne de l'innovation, des choses qui sont pas terminées? Donc oui, oui pour tout ça, personne objet. Les batteries de demain, donc là il y a une grosse discussion technologique. Ce qui est intéressant, c'est que donc oui, il y a des gens qui travaillent sur des batteries solides, ce qui on est passé en gros de batteries au plomb aux batteries lithium-ion, c'est-à-dire c'est grosso modo la même techno là que pour le camion électrique, le bus électrique. Ça pose encore des problèmes épouvantables. On est en train de recréer une nouvelle dépendance, c'est-à-dire on se débarrasse de la dépendance du pétrole pour avoir une dépendance à d'autres matières et d'autres pays. On peut tourner le problème dans tous les sens. Je veux dire, si vous faites rouler une Zoé, vous avez 65 kW, donc vous avez une batterie à 65 kW. Si vous faites rouler un vélo, pardon, hein, c'est 250 watts, donc c'est 300 fois moins. Donc le moins dépendant vous serez, le moins vous consommez, le moins dépendant vous serez, vous n'aurez pas cette magnitude-là de gain en termes technologiques. C'est-à-dire, on ne va pas trouver une batterie qui consomme 300 fois moins, qui nécessite 300 fois moins de terres rares et qui fonctionne au cidre, hein, ou à la pomme, ou je sais pas quoi, qui est local, quoi. Ça marchera pas. Donc de toute façon, le sujet, on peut le prendre dans tous les sens. Il faut consommer moins. On peut consommer moins, donc ça, pour répondre à une autre question, en forçant les gens à pas se déplacer. C'est compliqué quand même, hein. On le voit, les gens ils manifestent sur les ronds-points pour pouvoir se déplacer. Donc il faut qu'ils puissent se déplacer, encore une fois, en consommant moins d'énergie, il faut que ça leur coûte moins cher. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des solutions aujourd'hui, s'il y a les infrastructures qui vont avec. Sur la tertiarisation, les comportements, oui, effectivement. Globalement, il faut garder à l'esprit que même sans ça, alors ça c'est important, effectivement, moi j'ai travaillé chez Keolis Armor, donc je connais bien le transport des salariés de la Jeannet. C'est bien, c'était groupé, hein, on les groupait, il n'y avait pas des parkings qui tenaient tout le monde. Il y avait même des gens qui conduisaient les autocars et qui travaillaient à l'usine et finissaient leur service en ramenant l'autocar. Mais oui, il faut tenir compte de tout ça. Le télétravail, je pense que c'est quand même une sacrée solution. C'est-à-dire la possibilité de donner aux gens, quel que soit l'endroit où ils habitent, hein, de se connecter, d'accéder finalement à leur environnement en ligne, c'est très important. Et aussi le télémédecine, la télé bibliothèque, l'accès à vos propres services. Hein, je veux dire, alors c'est pas vous, mais je suis toujours chagriné de voir tous les gens qui font la queue à côté pour des permis de séjour ou des trucs comme ça. C'est quand même malheureux. Donc là aussi, prenez votre part. Et là, les technologies peuvent aider. Prenez votre part en essayant de se demander à chaque fois comment j'évite aux gens de se déplacer ou de se redéplacer pour améliorer ça.
Merci. Alors, Madame Le Callennec, une faveur, parce que vraiment, c'est vous. Et puis, en toute, c'est le fait du prince, voilà, j'assume. Donc une question courte qui appellera une réponse, et je donnerai là un exercice impossible à faire à Monsieur Lefebvre, qui va être de conclure ce débat-là. Alors, Madame Le Callennec.
Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une question pour vous, Monsieur Schulz, mais je vous remercie de votre intervention. Moi, je considère quand même que ce que vous nous avez présenté, c'est quand même la réalité vécue par les métropoles à ce stade. Et je trouve donc dommage, mais vous allez nous dire pourquoi, et ça va être une réponse à Monsieur Lefebvre, qu'on n'a pas pu entendre aujourd'hui Madame Marie Huyghe sur les mobilités dans les territoires périurbains et ruraux, qui nous posent effectivement des questions très concrètes. Donc j'imagine, j'espère que cette personne pourra un jour revenir. Mais
je pense qu'on m'a dit pourquoi on ne pouvait pas. Ça a été dit, mais on peut le répéter. Monsieur Lefebvre.
Oui, malheureusement, Marie Huyghe s'est décommandée pour des raisons de santé. Hein. Mais effectivement, compte tenu de l'intérêt que on porte tous sur des problématiques de mobilité, il serait peut-être utile et opportun de la faire venir pour qu'elle puisse animer également une conférence sur les problématiques qui nous touchent, notamment en termes d'infrastructures et puis sur les nouvelles technologies qui arrivent et sur lesquels on devra, bien entendu, travailler. Donc, merci pour toutes les questions qui ont été posées. Il y a un grand chantier devant nous à travers Mobilité 2025. Mais je crois qu'il y a des perspectives, on a décrypté quelques orientations sur lesquelles, bien entendu, on va réfléchir au cours des mois qui viennent. Merci pour ton intervention.
Alors, juste, Madame Le Callennec, je pense que ce serait une erreur fondamentale que de considérer que ce que nous avons entendu là ne concerne que le fait métropolitain. Ça concerne vraiment la totalité de nos territoires dans toute leur diversité. Il faudra
des éclairages complémentaires, bien évidemment, mais ces problématiques-là, les qualifier de problématiques métropolitaines, je pense que fondamentalement, ce serait une erreur de penser que ces évolutions-là ne concerneraient pas, à des rythmes et selon des intensités diverses, la totalité des territoires et de nos concitoyens. Là, je ne m'inscrirai pas dans cette démarche-là. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir et de compléter. Et c'était notre volonté la plus chère de pouvoir avoir ces deux interventions complémentaires en termes de problématiques. Mais véritablement, je crois qu'il faut absolument, au contraire, dépasser ces visions qui diraient qu'il y aurait deux mondes qui seraient potentiellement en confrontation sur ces sujets-là. Nous ne trouverons pas de solution si nous ne dépassons pas ce type d'approche. En tout cas, merci André, merci Monsieur Schultz pour cet éclairage, je crois, décapant. Beaucoup de sujets dans un temps court, bien sûr, et beaucoup de sujets en devenir, donc sans doute aussi encore plus de questions à se poser que de réponses à apporter immédiatement. Mais je pense qu'il est aussi important que dans cette Assemblée, nous avons des temps délibératifs de prise de décision, mais aussi d'avoir des temps d'ouverture pour que nous-mêmes, eh bien, nos réflexions puissent s'enrichir, se structurer progressivement et plus tard aller vers des décisions. C'est, je crois, nécessaire et indispensable pour notre bon fonctionnement collectif, et y compris tout ceci, c'est à mettre en perspective avec des décisions à venir. Mobilité 2025, nous y serons bientôt. Ille-et-Vilaine 2035, dès cet après-midi, nous y retravaillerons. Merci pour cette contribution. On va donc reprendre le cours.